Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 12h et 13h avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Si je vous dis Montélimar, Granada, Matagalpa, León, vous penserez Nicaragua.
On s'en va poser nos valises au Nicaragua ?
Oh, d'abord, on va prendre l'avion, on va décoller de Miami et puis on va imaginer d'abord un atterrissage sur une capitale un peu inattendue. Il y a une chose qui me... Je me rappelle avoir tourné pour la première fois en dessus de cette capitale. Oh, je vous dirais
en
que...
avion ?
En avion, bien sûr. Et il est rare que lorsqu'on survole une ville, on imagine du noir. C'est-à-dire des endroits qui ne sont pas habités. Or, Managua, il y a des taches complètement noires en plein cœur de la ville. Et quand on évoque ce pays, on pense plutôt à tous ces échos.
Sans bâtiments, c'est ça ?
Sans bâtiments, c'est-à-dire, je parlerai de ce qu'on a ressenti au cours de ces dernières années, je dirais cette dernière décennie en particulier du Nicaragua. On pense d'abord au fait que c'est un pays qui a subi d'énormes tremblements de terre, un pays qui a eu ses révolutions et ses guerres. Et finalement, ce trou noir que j'évoquais, eh bien, c'est celui de la capitale. Le centre n'existe toujours pas, n'existe plus depuis le grand tremblement de terre qui a eu lieu sur place en 1972. Ça paraît assez curieux de penser que en pleine époque du dictateur, enfin de la grande dictature Somoza, eh bien, après le tremblement de terre, on a carrément refusé, politiquement parlant, de reconstruire le centre de la ville. Or, le centre est nu, complètement nu. C'est une ville qui est quadrillée, comme toutes les villes d'Amérique latine, et aujourd'hui elle n'est faite que de banlieues, finalement. C'est un peu comme si vous enleviez tout le centre de Genève, que vous enleviez carrément même la structure réelle de ce qui fait un gouvernement, de ce qui fait une capitale, c'est-à-dire il ne reste que des ruines d'un palais qui maintenant est en reconstruction et qui va servir un jour de musée, et il ne reste qu'un théâtre qui n'est pas très loin de l'eau, on ne sait pas très bien où est l'eau parce qu'on est près d'un lac. Il n'y a pas de véritable quai, il n'y a même pas de véritable cathédrale. C'est une énorme structure complètement abandonnée.
Mais pourquoi le centre n'a pas été reconstruit ?
Parce que finalement, sur le plan... disons, sur le plan foncier, ce centre appartenait majoritairement, comme un pourcentage qui fait presque peur. On avait presque l'impression, en pleine dictature Somoza, que le pays entier appartenait à un seul clan et à une seule famille. Donc imaginons que toutes les structures économiques d'une capitale se transforment. Et finalement, c'est une véritable possession immobilière qui correspond à un clan. Et une fois que tout est démoli par un tremblement de terre, vous avez le choix soit de reconstruire, soit de ne rien toucher, et puis d'attendre. Donc finalement, ce sont des sortes de bulles de banlieue, un peu à l'américaine, mais qui gardent ce côté un peu déglingué latino, qui se sont structurés et qui finalement ont même un côté extrêmement moderne. Vous avez des quartiers entiers où il fait relativement bon vivre, mais avec une voiture. Je veux dire par là qu'on se donne rendez-vous d'un bout à l'autre de la ville, comme si vous alliez carrément de Versoix à Saint-Julien ou si vous alliez de Ferney à Annemasse, mais entre deux, il n'y a rien. Donc obligatoirement, chaque fois que vous prenez un rendez-vous, que ce soit dans un restaurant, dans un bar, chez un ami, eh bien vous traversez le vide du centre. Voilà un peu comment on pourrait survoler d'un premier coup d'œil cette étrange capitale qu'est Managua. Je dirais que c'est peut-être aussi presque une sorte d'attirance que l'on ressent parce que c'est tellement exceptionnel. Je me rappelle avoir ressenti le choc de ce qu'avait été ce tremblement de terre et de savoir que tout à coup une capitale entière, une ville entière avait été démolie, détruite, et puis on s'est rendu compte au fil des années que rien n'était refait, que rien n'était vraiment rebâti. Et je l'ai revisité il y a peu de temps et finalement cette impression est restée exactement la même, c'est-à-dire que dans l'image que l'on a de quelque chose de détruit, on pense souvent à des monuments qu'on a volontairement laissés au centre de villes détruites.
Là, rien, absolument rien.
Oui, c'est un peu comme si le monument d'Hiroshima, le monument d'une ville allemande de Berlin avec une simple église qui rappelle un bombardement, eh bien c'est exactement cela. C'est ce qu'on ressent encore aujourd'hui. Et puis le fait de voir tout à coup de la verdure, c'est-à-dire quelques arbres rabougris et puis des rues qui passent dans le vide, de l'asphalte qui passe entre des structures qui sont nulles, qui sont annulées, et en même temps d'avoir. Le gazon a bien fini par pousser. Il y a près de là une statue assez incroyable qui est laissé là comme souvenir de l'époque révolutionnaire. On a l'impression d'être pratiquement sur, comment vous dire cela, d'être au moment d'un après-film de Spielberg. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de ruine assez étrange qui fait que on était en plein travail, on était en plein quelque chose, et puis tout à coup tout s'est arrêté. Mais dès qu'on part du côté banlieue, justement, alors là au contraire il y a une ville très intense. On a même reconstruit à Managua une nouvelle cathédrale qui est assez extraordinaire au point de vue architectural, et c'est une cathédrale qui finalement a été faite par un architecte mexicain, et elle a gardé l'esprit d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est très colorée. Comment vous la décrivez? Elle est dans un terrain vague d'abord, ça surprend. Elle est au bord d'une espèce de semi-autoroute. On la voit de loin parce qu'elle est presque nue au milieu de tout cela, et elle est faite un peu dans le style des architectures contemporaines que l'on voit justement dans les grandes villes. Là, je penserais plutôt à São Paulo, à Brasilia, à Mexico. Et c'est une très belle structure extérieure, mais on sent le béton cru. Et lorsqu'on s'approche, il y a beaucoup de couleurs. Et lorsqu'on y pénètre, eh bien, il n'y a que ce béton qui retient encore les formes de simples planches qui avaient été déposées et retirées. Et là-dessus, on a simplement mis un peu de
De
couleur.
peinture.
Donc, c'est vraiment une grande structure nue. J'avoue que j'aime beaucoup. Il y a du jaune d'une intensité violente, par exemple, avec des sortes de puits de lumière qui descendent du ciel. Vous vous dites, tiens, c'est à l'image exacte de ce qu'on aurait fait en tant qu'architecte pour évoquer à la fois la suite, c'est-à-dire le modernisme, l'an 2000. Cette nudité fait aussi penser à quelque chose qui manque, quelque chose qu'on n'a pas pu investir. C'est presque une économie, même si elle est pensée dans l'esprit de l'architecte. On a l'impression qu'il a voulu laisser cette façon extrêmement crue pour donner en même temps non seulement l'impression de modernité, mais le fait que on n'ose pas en faire plus après ce qui s'est passé. Or, elle a une violence et en même temps une paix assez curieuse. C'est comme une gemme non terminée, c'est comme on dirait une pierre brute, ce béton en soi avec très peu de décors locaux, avec peu de détails de structure, fait qu'on se sent en même temps porté par l'intelligence de l'architecture et cette rareté de la matière. J'avoue que c'est un endroit qui moi me touche parce que on peut aimer l'art moderne, mais avec ce côté épuré, on ne peut pas aller plus loin dans le squelette.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ship explodes. Neighbors just shining home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Maurice, on poursuit notre voyage.
Oui, on va continuer à visiter un peu cette capitale, puis on ira plus loin. Après, j'ai évoqué León, Matagalpa ou Granada. Ce sont d'autres villes qui forment vraiment le cœur plutôt colonial alors du Nicaragua. Mais Managua, là, quand on a passé devant la statue de ce rebelle sandiniste qui est complètement délabré, qui est rouillé, lorsqu'on a évoqué tout à l'heure cet architecte, Lagoreta, ce Mexicain qui a vraiment transformé cette cathédrale en l'image de Managua. C'est un mélange de modernisme et en même temps de non-finition. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent très fort. Or, il est vrai que ces 10 années révolutionnaires avec les sandinistes, avec ces mouvements incroyables, eh bien, c'est une sorte de parenthèse qui est maintenant fermée, mais qui a laissé pratiquement 80% de la population sans travail, qui a laissé carrément 80% du territoire sans aucune agriculture.
Elle est forte, la population ?
Elle est intense, oui, dans les villes en tout cas, mais c'est un pays qui en même temps paraît très vide. Il est vide parce qu'il a été saigné de sa propre population, c'est-à-dire si vous étiez d'une certaine classe, je pense aux médecins, je pense aux avocats, je pense à tous ceux qui sont qui représentaient des professions libérales, qui ont besoin de vivre dans une société normalisée, eh bien, tous ces gens-là sont partis et ont fini leur vie, et la finiront d'ailleurs certainement aux États-Unis ou ailleurs. Et puis il y a l'intelligentsia qui est encore en dessus, et puis il y a surtout les grandes fortunes du Nicaragua qui, pendant ces 10 ans de guerre civile, ont également fui leur pays, et en tout cas fui cette étrange dictature qui a duré beaucoup trop longtemps, et où il était vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Alors les gens qui sont vraiment des millionnaires, des gens qui ont vraiment des fortunes extraordinaires, ont pu à la fois vivre à l'étranger, côtoyer leur propre congénère ailleurs dans le monde, et puis au moment où tout s'est calmé, maintenant depuis quelques années on est vraiment dans une période de calme, on a envie de retourner au pays, on a envie de revoir ce pays. Alors ceux qui ont trouvé une situation ailleurs l'ont gardé, mais ceux qui avaient de grandes fortunes et surtout des terres au Nicaragua sont revenus parce que petit à petit on va les redonner à ces gens-là. Mais ce qui est très touchant, c'est que c'est un pays totalement en friche. On n'a pas du tout la notion de ce que représente un pays en friche. Il faudrait se retrouver exactement. Moi, j'ai ressenti des chocs qui, par mon ignorance historique, m'ont replongé dans ce que devait être l'Europe en 1946-47. Il y a vraiment tout est à faire. Tout est à reconstruire, tout est à restructurer. Et vous pouvez monter une société de n'importe quoi. Si vous voulez vous lancer dans le riz, dans le sucre, dans le café, dans la vigne, on peut tout inventer. C'est-à-dire dans les voitures de location, par exemple. Eh bien, vous achetez 3 voitures de location, vous en avez 300 au bout d'une année. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, à la limite, même si un jeune avait la possibilité de lancer un hôpital ou de recréer un poste libéral, eh bien, obligatoirement, il trouvera sa place parce qu'il n'y a plus de poste du tout, il n'y a plus personne qui était en place.
C'est possible, donc.
Ah oui, non seulement c'est possible, c'est un pays qui est en pleine ébullition et qui a vraiment tout à recréer. Et Managua est un peu le miroir de cela, parce qu'une fois que Somoza est parti, je vais prendre un autre exemple. Quand on a envie de visiter un pays comme celui-ci, avec des lacs somptueux, avec cet étrange, immense lac comme ça, qui lui côtoie la capitale que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps glisse tout près du Pacifique. Vous êtes il n'y a que 14 km de distance entre cette énormité du lac, avec des volcans plus au sud qui le ponctuent dans le centre, mais il n'y a que 14 km avec l'océan lui-même. Et puis quand on descend plus au sud, lorsqu'on touche le Costa Rica, eh bien là vous avez carrément ce Rio San Juan qui lui traverse carrément le pays et crée une sorte de liaison avec l'Atlantique. Alors regardez peut-être une carte, parce que c'est assez impressionnant de voir que le Nicaragua est à la fois lié sur le plan hydraulique avec ce fleuve qui va petit à petit couler le long de la frontière et nous amener à l'Atlantique, dans une terre complètement vierge, où il y a beaucoup de noir, il y a nouveau ce côté Caraïbe. Et puis lorsque vous avez fini cette traversée, ben, vous tombez dans le lac et non pas dans le... On pourrait presque créer une sorte de canal, on y avait pensé d'ailleurs, créer un canal qui aurait été beaucoup mieux placé, peut-être plus facile à créer que Panama en soi, parce qu'il n'y avait qu'à faire ce tout petit trou entre le Pacifique et le côté lacustre pour pouvoir ensuite repartir carrément vers l'Europe, c'est-à-dire vers l'Atlantique. Alors, je parle de cette étrangeté du pays parce que c'est une économie qui va maintenant se développer un peu sur le modèle du voisin, ce voisin du sud que j'évoquais, c'est-à-dire le Costa Rica, qui lui est un peu la Suisse de l'Amérique centrale, qui a un développement extraordinaire, qui a surtout une quiétude démocratique fantastique. Et le Nicaragua...
Il n'y a pas eu de révolution au Costa Rica.
Non, le Costa Rica est le pays tranquille par excellence de l'Amérique centrale. Et prendre l'exemple sur San José, prendre l'exemple sur la façon de fonctionner, même touristiquement parlant, le Costa Rica n'a pas une grosse infrastructure, mais a toujours pu recevoir l'étranger sans aucun problème. Il y a de la verdure partout, il y a des réserves extraordinaires. Et le Nicaragua a tout cela. Même si c'est en état de friche, demain, ce sera certainement un des pays les plus extraordinaires à visiter en Amérique centrale. Et on peut bien sûr compter actuellement sur l'aide des Américains et de tous les investisseurs potentiels qui commencent à s'intéresser. Ce côté frais, ce côté nouveau, ce côté où tout est possible. Il n'y a pas beaucoup de pays. On a plutôt l'impression que le reste est rouillé, même si ici, tout est un peu déglingué. Et à partir de là, je dirais que ce côté insolite, eh bien, on a presque envie de le saisir comme ça. Quand on arrive sur place, on se dit, mais enfin, on ne peut pas vivre là-dedans, il n'y a rien. Et puis en même temps, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans cette banlieue, je sais pas, admettons que vous soyez invité ce soir au restaurant César, bah tiens, vous allez trouver le Bougna qui lui est un brave Suisse qui s'est installé il y a quelques années et qui maintenant a vraiment le restaurant de l'endroit, et maintenant il construit un hôtel à côté et puis la piscine et puis les réceptions, et donc tout devient ainsi un peu explosif. Et c'est la même chose pour je prends des cas qui sont peut-être plus simples, mais quand on arrive comme étranger, ce qui nous choque, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'hôtel. Ça paraît étrange, mais voilà un pays où on se dit, tiens, où est-ce que je vais dormir? Alors, il y a le Camino Real, et quand vous dites Camino Real, vous vous imaginez un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles.
C'était un 5 étoiles.
Non, c'est encore un 5 étoiles pour le Nicaragua, mais vous y dormez entre 2,5 et 3 étoiles. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le service est parfait, il y a un effort, mais il manque certaines choses. Vous allez à Las Mercedes, qui est l'autre hôtel qui est près de l'aéroport, et bien là, vous avez l'impression d'être dans un petit coin de banlieue, et en même temps, c'est certainement le deuxième hôtel du pays.
Just a
Quels sont, Maurice, les centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme du côté du Nicaragua?
Non, parce que les gens avaient une frousse épouvantable au moment de la dictature Somoza. Et
puis, actuellement,
aucun problème. C'est un pays qui s'ouvre véritablement. Et je dirais que les principaux centres d'intérêt, d'abord, ce sont les villes d'origine coloniale. J'ai parlé de Managua qui est détruite, mais elle a un attrait par ce côté-là, bizarrement. Là, je suis un peu sordide dans la mesure où c'est une ville très difficile pour y vivre. Naturellement, à chaque feu rouge, même là, dans cette espèce de désert central, il n'y a que des enfants qui essayent de vous vendre quelque chose. Il y a des petites boutiques partout qui surgissent d'un peu partout. On a l'impression de juste après la pluie, lorsque les premiers champignons sortent, hein, c'est vraiment le phénomène qu'on ressent. Mais si je parle de villes coloniales, il y a des endroits tranquilles, il y a des endroits doux, il y a des villes justement comme León, comme Granada, on les égrènera petit à petit, qui au contraire ont gardé le charme du XVIe siècle, avec un tout petit côté latino, bien sûr, un petit côté qui fait que ce pays, ayant passé par cette moulinette étrange, à la fois politique, guerrière, et obligatoirement, il y a toute une structure à redécouvrir, parce que ceux qui ont vécu, par exemple, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 30 ans. Essayez d'imaginer d'avoir 30 ans au Nicaragua, ou 33 ans, ou 34 ans, parce qu'il y a déjà un tout petit souffle démocratique depuis quelques années. Et voilà des gens qui, à 20 ans, ont connu la révolution. Et qui ont vécu 10 ans en état second, c'est-à-dire ils étaient, je sais pas, quelqu'un qui était artiste par exemple, ben il n'a fait que de peindre sur des murs pendant 10 ans pour dire quelque chose. Alors tout ça, ça reste. Quand vous visitez la ville de Managua et particulièrement les autres villes du pays, eh bien partout on sent ce souvenir comme ça. Ces immenses fresques qui vous évoquent des guerres fratricides, c'est assez étrange. On a l'impression d'un décor de théâtre un peu partout quand même. Et puis alors je dirais que l'attrait majeur de ce pays, ben c'est ce qui repousse, c'est ce qui revit, c'est ce qui revient et qui a toujours existé, c'est la nature, bien sûr, et particulièrement les volcans. Les volcans du Nicaragua, c'est absolument fabuleux parce qu'on peut les toucher du doigt, on sent la chaleur, on sent la lave, on ira se balader dans certains de ces volcans, simplement parce que tout à coup, quand vous voyez carrément à quelques dizaines de mètres en dessous de vous, la lave qui bout comme cela, et puis vous êtes pris dans ces fumerolles, vous êtes vraiment au cœur même du voyage de Jules Verne. Et là, on n'a qu'à déposer sa voiture à 5 mètres.
Il y a des volcans entre les villes ?
Il y a des volcans un peu partout dans le pays, il y en a qui sont en activité à quelques kilomètres des villes et ils sont là comme de grosses bouilloires et ils ne gênent personne au premier abord, mais ils pourraient exploser à n'importe quel moment. Disons que ce sont des volcans un peu plus calmes que ceux qu'on imagine. Ce ne sont pas vraiment des cônes parfaits, mais il y en a qui sont somptueux comme ça et qui ont, par exemple, il y en a certains qui sont au milieu du lac Nicaragua que j'évoquais tout à l'heure. C'est une île fantastique où vraiment c'est un décor une fois de plus que la nature a laissé. Et puis il y a quand même autour des volcans bien sûr tous ces phénomènes géologiques qui sont fascinants. Et puis il y a naturellement ce qu'on aime, des plages bordées de cocotiers le long de forêts tropicales. Ça, ce serait peut-être le meilleur exemple pour montrer l'après quelque chose. Quand on est maître absolu d'un pays de père en fils, qu'on a véritablement une dictature, là je pense par exemple à Anastasio Somoza, qui était le descendant de cette famille des dictateurs et qui a pris la décision de laisser les immeubles délabrés au centre de la ville uniquement pour des raisons de spéculation immobilière, eh bien voilà une famille et un dictateur principal qui lui avait qui avait choisi les meilleurs endroits du pays. Naturellement, les meilleures terres ont toutes appartenu à cette famille. On n'a aucune idée en Europe de ce que peut représenter cela. Imaginez que la Suisse entière appartienne à une seule famille, mais vraiment, entièrement. C'est qu'il n'y a plus, de plateau en soi, il y a une propriété, il n'y a plus forcément de lieu qui soit horticole, maraîcher, agricole, qui n'appartienne à quelque part à cette famille. Alors, je parle des plages de cocotiers, c'est la même chose. Si vous avez une plage qui est somptueuse, elle appartient à cette famille. Donc si vous avez par
tout
hasard un rocher fabuleux qui lui-même est sur le côté pacifique avec une anse extraordinaire et 10 km de plage, ben voilà, vous n'avez qu'à construire sur le rocher la villa type de résidence de Somoza et puis vous avez les 10 km de plage pour vous, uniquement pour vous. Et puis un jour ça s'arrête. Alors obligatoirement cette villa qui est énorme va être transformée et aujourd'hui eh bien, c'est le cœur d'un des plus beaux hôtels du Nicaragua. C'est devenu une sorte de Club Med parce qu'une compagnie espagnole, Barcelo pour ne pas la nommer, a repris en main cet endroit où déjà on avait songé, bien sûr, à quand on reçoit, imaginez que vous êtes le chef d'une famille pareille, eh bien vous aurez des invités, il faut bien les faire dormir, donc vous allez construire une succession incroyable de bungalows, de luxe, exactement comme les beaux hôtels qu'on verrait ailleurs dans le monde, et puis vous avez carrément une sorte de résidence qui devient un Club Med pour vous tout seul. Alors un jour, eh bien, vous le transformez, vous en faites quelques allées supplémentaires, vous mettez une piscine, vous mettez un centre d'accueil, et puis la villa, vous la transformez en restaurant de luxe avec une terrasse, vous mettez une très belle toile de tente pour la musique le soir, pour que tout soit joyeux, vous avez la mer devant vous, c'est devenu un centre absolument remarquable. Et vous avez des milliers et des milliers de Canadiens qui viennent carrément de semaine en semaine, il est plein à longueur d'année.
Another day has gone, I'm still all alone, how could this be? Every day I see.
On est au Nicaragua et de quoi vit ce pays ?
Oh, il revit de nouveau d'agriculture parce que j'évoquais ces grands propriétaires qui reviennent au pays. Eh bien,
il y a pas de l'or là-bas.
Écoutez, on trouve un peu tout au Nicaragua. J'entends, c'est un pays extrêmement riche sur le plan minéral. Il y a aussi des possibilités énormes, mais tout est à remettre en place. Hein. Et je dirais que c'est surtout le côté agricole qui est à travailler. Mais c'est assez fantastique parce qu'obligatoirement, quand les choses sont neuves, vous pouvez rencontrer les gens qui s'unissent. En l'occurrence, vous allez trouver le jeune de 30 ans que j'évoquais tout à l'heure qui essaye de redevenir quelqu'un et de refaire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 ans d'absence, donc souvent les gens sont déjà matures pratiquement, et les jeunes qui avaient 10 ans et qui se retrouvent à 20 ans, ils démarrent complètement aussi. Il y a eu tout un trou comme ça dans leur enfance ou dans leur adolescence ou dans leur vie d'homme. Et ceux qui reviennent au pays, eh bien, ils se disent, bon voilà, j'ai tout à coup un terrain de 20 km sur 30 à replanter. Alors j'ai racheté quelques milliers de plants de café et je remets tout en place. Il faut tout défricher, il faut recommencer. Et ça, c'est impressionnant. Je crois que c'est la part la plus intéressante parce que quand vous rencontrez les gens, obligatoirement, vous allez croiser un ministre, vous allez croiser un homme d'affaires. Tous ces gens-là sont pratiquement sur le même pied, même s'il y a des fortunes immenses et qu'en même temps, il y a ces 80% qui cherchent leur avenir et leur travail. Eh bien, obligatoirement, je ne dirais pas qu'on se serre les coudes parce qu'au contraire, les classes vont se marquer dès le départ de façon très brutale. Mais vous pouvez retrouver ces gens-là comme on retrouverait quelqu'un dans le bistrot du coin. Mmh. En l'occurrence,
les rapports sont différents. Donc.
Complètement différents parce que d'abord, il n'y a que 3 ou 4 endroits où on peut se retrouver. Je parlais du bistrot César tout à l'heure, mais vous pourriez, je sais pas, par exemple, le soir, si vous voulez vous amuser, ben vous sortez les doigts de la main, puis vous dites, tiens, j'en ai qu'une. Et en l'occurrence, il y a des boîtes fantastiques parce que cette période révolutionnaire a aussi donné un folklore particulier. Il y a des chanteurs fantastiques, il y a des musiques extraordinaires. Et puis, il y a cette nostalgie fantastique qui fait que ces gens-là se sont trouvés.
C'est des chants révolutionnaires
ou... Ils n'ont plus grand-chose de révolutionnaire. Ils vont devenir obligatoirement plus amoureux, si j'ose dire, et un peu plus doux. Mais on sent que ces gens ont vécu sur cette fonction-là. Et obligatoirement, je sais pas, par exemple, vous retrouvez le soir à la Buena Nota, c'est un dîner-spectacle, eh bien, il y a une ambiance extraordinaire. Les gens refont leur pays, parce que même avec des chansons, on peut le refaire. Et on sent très bien que cette nostalgie, elle a quelque chose de... C'est curieux qu'on puisse s'ennuyer d'une période révolutionnaire. Mais elle est tellement longue. 10 ans de guerre civile, 10 ans de drame, 10 ans de problèmes, ça marque complètement tout le monde. Et finalement, on a une chaleur fantastique par rapport à l'avenir, et puis en même temps, on a presque envie de pleurer parce qu'on a perdu quelque chose auquel on s'était habitué, si vous voulez. Mmh. C'est pas la guerre avec le fusil et la fleur, mais c'est pas loin finalement. Et surtout pour ce côté jeune et ces gens qui croyaient en une forme révolutionnaire et qui tout à coup s'arrêtent avec une démocratie aussi simple et aussi naturelle que celle que vivent les Nicaraguayens maintenant. Et le soir, ben vous le voyez aussi dans les endroits, bon, il y a du rhum, hein, au Nicaragua, c'est-à-dire qu'il y a de la canne à sucre et on est très joyeux, on s'amuse avec rien, et même si on a un certain niveau, on continue à le faire de la même manière. Je sais pas, quand on vous organise une soirée avec des gens du gouvernement, vous vous dites, tiens, le buffet était sympa, mais il est tout à fait ordinaire, dans le sens que la sympathie est une chose naturelle. Ces gens-là se donnent complètement et ils font tout avec des bouts de ficelle malgré tout. Vous avez beau avoir de l'argent, quand il faut commencer, ben faut commencer. Donc obligatoirement, un établissement, ça peut être une simple terrasse, qu'on appelle le Mirador, qui est sur une simple ravine comme ça, qui n'a rien d'extraordinaire. Vous avez quand même une voiture, parce que obligatoirement, vous pouvez tout à coup vous acheter la belle américaine et ça transforme le paysage, à côté de toutes ces voitures déglinguées qui essayent de ne pas s'arrêter au feu rouge la nuit parce qu'il vaut mieux pas. Vous comprenez pourquoi ? Parce que chaque fois que vous arrêtez, il y a peut-être quelqu'un pour se servir. C'est assez fantastique de vivre ce moment-là. Et je dirais qu'en tant que touriste, si on n'a pas trop de craintes, moi je me rappelle avoir visité par exemple la cathédrale.
Ce qui veut dire que malgré tout, même si ce pays va avoir une nouvelle expansion, il y a quand même des gens qui sont...
Bah oui,
des problèmes.
Les largués,
gros problèmes.
Les
gros
largués ont été largués. Mais si vous y allez, j'avoue avoir fait la dernière fois où j'y suis allé la bêtise de partir avec une chaîne autour du cou, bah c'est normal qu'on me l'ait prise. Je veux dire, faut pas rêver. Ça s'est fait en toute humilité, en toute simplicité. C'était quelqu'un qui avait vraiment besoin de se servir. Uh-huh. Et il l'a fait devant tout le monde, pratiquement. C'est-à-dire que ce n'était pas une agression. Moi, je l'ai pas ressenti comme une agression. J'ai été ennuyé. C'est vrai qu'en voyageant beaucoup, on prend obligatoirement le même risque risque que le fait simplement de voyager. Mais en l'occurrence, j'ai pas du tout senti qu'on en voulait à mes biens personnels. C'est-à-dire que, bon, bah, vous êtes accosté par un noir qui fait une tête de plus que vous, et c'est l'endroit le moins éclairé entre la cathédrale que vous venez de visiter. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis arrivé sur la place où se trouve cette cathédrale qui est véritablement à ciel ouvert, eh bien, obligatoirement, vous avez quelqu'un qui s'approche de vous qui vous dit non, ne rentrez pas. Parce qu'à l'intérieur, il y aura de toute façon quelqu'un qui va vous piquer quelque chose. Et on vous accompagne. Donc il y a aussi cette interaction qui fait que les gens savent très bien où ils en sont.
To know what the world is gonna do. Or if we can get off now. The road that we're on. There's hate in my brother's eye. But as the time goes by, I get harder. They say we learn by our mistakes and then we carry on. Sometimes I'm not sure. Sometimes I'm not sure. There's no brakes on this car. As it rolls down the hill, my muscles are straining now. My foot's through the floor. Perhaps that's why. Perhaps that's why. I see the dolphin, it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye. As the time goes by, makes me. Don't wanna go to school anymore today. Cause history, she keeps on and on, repeating herself. She can't forgive, she just licks all of her wounds. Sore is the day, and sore is the night. Perhaps that's why, perhaps that's why. I see the dolphin, it makes me cry. As I look in your eyes, I look in your eyes. As the time goes by, makes me cry. Whoa. When I was a boy, when I was growing up, I remember life was so simple. Life was so sweet. Now that I'm older, I'm wiser, so fool. I keep on breaking those golden rules. And perhaps that's why, perhaps that's why. I see the dolphin and it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye, as the time goes by. Makes me cry. Perhaps that's why I see the dolphin and it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye, as the time goes by. Ever touch the loneliness of a broken man? Did you see a starving child die? Do we really do these things to one another? Do you see why dolphins make
circulation la nuit, Je me rappelle m'être rendu, vous vous rappelez des cocotiers là, cette belle plage de Montélimar, ça s'appelle Montélimar. Eh bien, la route qui part pratiquement de Managua, qui était la capitale naturellement aussi à l'époque de la dictature, eh bien, c'est une petite route qui serpente comme ça. Bon, comme c'est assez volcanique et montagneux, on ne sait pas très bien où on est, on cherche un peu le Pacifique comme ça, on dit on n'y arrivera jamais. Il y a des herbes partout, il y a ce côté très sauvage. De temps en temps, il y a des maisons, on ne sait pas pourquoi elles sont posées là. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas qu'un fermier ou quelqu'un puisse habiter puisque tout est en friche autour. Donc, une cabane en bois posée au bord d'une route, mais la route elle-même n'est pas en asphalte. Les routes sont assez bonnes. Au Nicaragua, bon, il y a des endroits où il y a quelques brèches ou quelques fissures quand on s'approche des volcans, mais ce qui est curieux, c'est que les routes ne sont pas mauvaises parce qu'en fait, elles appartenaient aussi à la dictature en soi, et c'est quand même une chose importante, le réseau routier. Et ce qui m'a paru curieux, c'est que comme Montélimar était en fait la résidence presque royale des Somoza, eh bien, cette petite route pour y aller reste un peu à l'intérieur des terres, et elle est pas très large, on a même un peu de peine à croiser un de ces vieux bus déglingués, et elle est faite entièrement, vous savez, ces pavés qu'on forge comme ça en béton et qui ont des formes assez harmonieuses finalement, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Eh bien, vous dites, mais c'est pas possible, je suis pas sur une route normale, elle, c'est pas une piste.
Je suis
absolument dans un jardin avec des herbes folles de chaque côté, et ça finit comme ça directement sans accotement, et en l'occurrence tout est fait avec ces petits pavés. Mais vous dites, mais j'ai déjà passé quelques milliards de pavés pour arriver jusqu'à cette propriété. C'est-à-dire qu'en fait, comme le dictateur avait lui-même une fabrique de ciment, eh ben, il a obligé à construire cette route entièrement avec ses petits pavés qui étaient produits par sa propre usine. C'est extraordinairement aberrant, mais en même temps, bon, ça tient peut-être un peu mieux que l'asphalte sous les pluies tropicales et sous ce côté que j'évoquais un peu humide et arborescent. Mais en l'occurrence, vous êtes effectivement dans une construction de lilliputien complètement différente. Vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas être en Amérique, c'est autre chose, je ne suis pas en Amérique latine. Et vous arrivez dans cette propriété, et là, même si tout a été refait par ce côté,
c'est-à-dire que cette route pavée arrive jusqu'à la propriété.
Ah oui, carrément. C'était tout à coup, vous avez une vraie barrière. On sent bien qu'on était véritablement dans un domaine privé. Il l'est encore, puisque cet hôtel est lui-même, je dirais pas barricadé, mais enfin, il a gardé la structure ancienne qui faisait qu'obligatoirement il y avait une chasse gardée. Il y avait un endroit complètement privatif. Et en l'occurrence, vous arrivez, il y a du bois, il y a une réception somptueuse, et vous vous retrouvez justement au sommet de cette colline, surplombant le tout. Et puis le matin, quand vous vous réveillez dans votre bungalow qui a tout le confort, c'est vrai qu'il est très bien fait, il y a des buffets somptueux, les piscines fonctionnent, etc. Il y a eu un moment d'abandon, hein, justement, de cette propriété, puisqu'il y a eu ce moment révolutionnaire entre deux, que ça a appartenu à d'autres qu'à la famille Somoza, puis il a fallu attendre le capital, c'est-à-dire la libération et la démocratisation du pays pour que, finalement, on refasse quelque chose. Alors le matin, c'est curieux, parce que vous avez envie de faire du footing, vous avez envie de grimper dans ces rochers, vous avez envie de longer ces plages. Elles ne sont pas très claires, hein, c'est le côté Pacifique, donc ça descend assez harmonieusement dans la mer, mais le Pacifique étant assez volumineux dans sa façon de fonctionner, j'entends par là que les vagues sont quand même assez présentes, c'est un sable assez foncé, et vous pouvez courir comme ça sur des kilomètres, et puis vous rencontrez là, tout à fait au coin d'un cocotier, quelques huttes supplémentaires, et là vous avez des braconniers carrément, c'est des gens qui ont toujours fonctionné un peu comme des parasites sur le bord de la propriété et qui vont pêcher le matin. Et en fait, ils fonctionnent encore comme si c'était interdit, comme si c'était encore un endroit qui n'était à qu'une seule personne et qui n'appartenait qu'à une famille. Et ça, c'est aussi assez curieux parce que ces gens doivent s'habituer petit à petit à ce que les choses deviennent publiques et deviennent harmonieuses au sens politique du terme. Et il y a une ville où l'on sent un peu, on en reparlera peut-être la prochaine fois, où l'on sent à la fois le passé, parce que c'est peut-être ce qui nous manque d'abord. Lorsqu'on aborde la capitale, on se dit qu'à cause d'un tremblement de terre, à cause d'autres tremblements de terre, il n'y a absolument rien qui correspond à une véritable époque coloniale. C'est-à-dire même la structure comme ça de la cathédrale Hiroshima, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, elle est complètement 19e. Elle n'a rien de très ancien. On se dirait même pas dans une Amérique hispanique. Mais par contre, dès qu'on glisse un peu plus bas sur la carte et qu'on longe le lac Nicaragua, eh bien, on arrive à León. Alors León, c'est ce qu'on attend vraiment. León, c'est un peu comme Granada qui se trouve justement vachement le long du
C'est-à-dire que à Leon, le passé a été conservé.
Oui, ce sont les deux seules villes vraiment du Nicaragua où on se sent, donc on remonte vers le nord pour aller vers Leon et on va changer, on va passer au bord des grands volcans, ou alors on descend vers le sud à Granada, qui elle-même se trouve donc le long de ce lac Nicaragua. Et là, on en reparlera peut-être parce que c'est vraiment un aspect assez curieux de se retrouver comme cela d'un seul coup dans cette léthargie coloniale, en même temps avec des couleurs, avec des constructions, et puis surtout alors des possibilités d'excursion qui sont fantastiques, soit d'aller voir un volcan, d'aller voir une romerie par exemple, ou alors de prendre un bateau et de glisser sur les eaux du lac et de se retrouver dans des centaines de petits îlots mais minuscules qui eux-mêmes vont vous faire penser qu'il existe encore des paradis. Tiens, je viens de voir passer un oiseau.